Hello, c'est Romain de 6ème Science, une petite pub, et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On vit très bien sans savoir.
Alors là, n'importe quoi.
Quand vous comprenez pas, vous dites, c'est pas fou.
Je n'ai pas dit que ce serait facile, Néron.
C'est pas simple, mais j'ai compris.
Bien. Je crois qu'on va bien s'amuser tous ensemble.
Sixième Science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
Ils sont rapides.
Nous avons chronométré le Tyrannosaure Rex à 40 km/h.
C'est un pas qui fait trembler la Terre. Je commence à être vraiment inquiet.
Dépêchez-vous, faut foutre le camp.
J'ai cru voir un gros T-Rex, et pas n'importe lequel. Cette femelle Tyrannosaurus rex de 12 mètres de long pour 4 mètres de haut doit bien peser dans les 5 tonnes. Difficile de la louper. Et si vous êtes de passage à l'aide à 50 km d'Amsterdam, vous auriez tort, vous aussi, de ne pas payer une visite à Trix. Trix, T-Rex, vous avez la blague ? Qu'on goûte ou pas l'humour de paléontologue, l'attraction principale du Naturalis Biodiversity Center méritait bien qu'on lui donne un prénom. Non seulement Trix est l'un des tyrannosaures les plus âgés jamais découverts, mais l'état de conservation de son squelette est juste exceptionnel. 67 millions d'années et toutes ses dents. En plus d'effrayer les visiteurs, la reine des lézards fait donc la joie des chercheurs. Et qui dit chercheur dit études scientifiques, publications, quand elles sont bonnes, articles dans Science et Avenir. Celui de Joël Ignace, paru dans le numéro de novembre, nous a passionnés. Nous voilà donc réunis, vous, moi, Trix et l'expert paléontologie de la rédaction de Science et Avenir. Bonjour Joël.
Bonjour Romain.
Alors je l'ai dit tout à l'heure, Trix, c'est un prénom tellement mignon qu'elle pourrait faire l'affiche, on va dire, du prochain film L'âge de glace ou Petit pied. Est-ce que tu peux nous présenter un peu la star de cet épisode ?
Trix, c'est une mamie Tyrannosaure Rex qui est morte à un âge assez avancé pour cette espèce, c'est-à-dire une trentaine d'années, voire peut-être même un peu plus, avec tous les problèmes des mamies, c'est-à-dire un peu d'arthrose au niveau de la queue, une infection chronique au niveau du museau, des côtes cassées, des traces de morsures, des traces de cicatrices, donc quelqu'un qui a bien vécu, et qui a vécu en Amérique du Nord. À l'époque, il y a 67 millions d'années, l'Amérique du Nord était divisée en deux par une mer intérieure et le territoire des T-Rex s'étendait sur la partie ouest de l'Amérique du Nord qu'on appelle la Laramidie.
Quand est-ce qu'elle a été découverte ? C'est ça, en gros, les tyrannosaures vivaient globalement aux États-Unis.
Ils vivaient en Amérique du Nord, dans la partie ouest de l'Amérique du Nord qui était à l'époque séparée en deux par une mer intérieure. La partie ouest qu'on appelait Laradia, elle a été découverte en 2013. Par des paléontologues néerlandais, ce qui explique qu'elle est atterrie un peu plus tard dans ce musée des Pays-Bas.
À 50 km, c'est ça, d'Amsterdam.
Tout à fait.
Et comment ce fossile, donc, que je disais, exceptionnellement bien conservé, qu'est-ce qui fait qu'il a relancé les passions du côté des visiteurs, on va dire des amateurs de dinosaures, mais surtout des chercheurs ?
Alors, côté visiteurs, c'est simple, c'est qu'en Europe, avant Trix, on n'avait pas du tout l'occasion de pouvoir observer un fossile de Tyrannosaure Rex. C'est le premier fossile qui a été publiquement exposé. Pour l'accueillir, le musée Naturalis a entrepris des travaux pendant 2 ou 3 ans, ce qui fait que, à réception du fossile, le fossile n'a pas tout de suite été dans le musée, il a tourné un peu dans toutes les capitales d'Europe et a été exposé notamment à Paris, où il y a plus de 200 000 personnes qui ont pu venir l'admirer. Donc ça a attiré forcément pas mal de passions. Et au côté chercheur, c'est un fossile qui est quasiment intact. On pense qu'en gros 80% de ces os ont été récupérés et ces os sont très bien conservés, presque pas déformés, ce qui fait qu'on peut faire des études ostéologiques très précises dessus. Par exemple, voir les points d'insertion des muscles, des ligaments et de toute autre structure qui entoure les os, comme on n'avait jamais vu ça auparavant chez un fossile de tyrannosaure.
Maintenant qu'on connaît un petit peu le personnage, à quelle découverte Trix a-t-elle mené ? J'ai cru comprendre que grâce à son état de conservation, on avait pu reconstruire un modèle 3D très fin et mieux comprendre sa façon de se déplacer, qui est finalement très économe, hein, malgré le poids de la bestiole, on l'a dit à peu près 5 tonnes.
Tout à fait. Alors jusqu'à présent, pour évaluer la démarche des dinosaures, se baser sur des modèles actuels de gros animaux, notamment les éléphants. Mais le problème, c'est que il nous manquait un facteur très important, c'était le rôle de la queue, qui est bien différent entre le T-Rex et l'éléphant. Et là, on avait toutes les vertèbres de la queue, et sur ces vertèbres, on avait tous les points d'insertion des ligaments et des muscles. Donc on a pu reconstruire très finement comment le muscle était accroché aux vertèbres et comment il bougeait. Quand je dis muscle, c'est quelque chose d'énorme, hein. On parle d'une tonne de muscles. L'auteur qui a fait cette étude parle même d'un énorme pont suspendu qui permettait à Trix d'équilibrer sa démarche et même de l'entraîner pour lui éviter de fournir trop d'efforts à chaque pas. Parce qu'il y avait un balancement de haut en bas de la queue qui faisait que tout son corps entrait en résonance, un peu comme le font par exemple les enfants quand ils sont sur une balançoire, quand ils jettent les jambes en avant pour aller un peu plus haut. Et ben la queue de Trix jouait à peu près ce même rôle d'entraînant de tout le corps, ce qui fait qu'au final, quand elle faisait des petits pas, elle consommait pas trop d'énergie par rapport à son poids.
Ouais, c'est ça, cette démarche, elle est finalement assez technique et économe, mais bon, pas véloce, quoi. Hein. D'après ce que j'ai pu lire, la reine des lézards se traîne un peu, quoi.
Elle n'était pas très rapide, puisqu'elle marchait plus ou moins à l'allure d'un être humain, un peu moins de 5 km/h, 4,6 km/h pour être précis. Éventuellement, quand elle piquait des pointes, on suppose qu'elle pouvait courir à peu près entre 20 et 30 km heure, ce qui n'est pas non plus très très rapide et très éloigné des clichés qu'on a pu voir, notamment dans Jurassic Park, où on voit un T-Rex poursuivre un 4x4. Ça, c'est pas possible.
Non, mais c'était un 4x4 électrique, je pense. Ça,
certainement. Hein. Certainement. Là, c'est peut-être plus envisageable.
Le dinosaure piétine, le brocoli, épuisant, le brocoli
à l'état de légumes.
On s'est attardé sur la queue, on passe de l'autre côté du T-Rex. Et bon, c'est une gueule, quoi. On connaît le T-Rex pour ses dents. En quoi la mâchoire de Trix est aussi son plus grand atout en termes de prédation ?
Alors, la mâchoire et même toute la tête, c'est un piège mortel qui ne sert qu'à gober de la proie. C'est-à-dire qu'elle est munie de récepteurs olfactifs, de récepteurs visuels et de récepteurs sonores hyper affûtés qui lui permet de détecter les proies de très loin. Et une fois qu'elle a ciblé sa proie, il est très 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 difficile de lui échapper parce que un coup de mâchoire et puis elle vous croque. Et quand je dis elle vous croque, elle vous broie parce que la mâchoire et les dents, il faut imaginer des dents qui font environ 20 cm de long, coniques, en forme de grosse banane. Elle déploie une puissance formidable, la plus grosse morsure de tout le règne animal jusqu'à présent. En gros, on pense qu'à chaque coup de mâchoire, c'est une force d'environ 5000 tonnes qui est déployée, avec une pression au niveau de la dent qui est énorme, puisqu'on pense que c'est de l'ordre de 30 tonnes par centimètre carré. Donc, de quoi manger la proie, de quoi casser ses os, de quoi broyer ses os et tout engloutir d'un coup, sans problème.
Ouais, c'est ça. Et je crois que même, les études ont montré qu'en gros, c'était une mâchoire hypersensitive, quoi, qu'elle était en mesure de détecter à peu près ce qu'elle avait croqué.
Tout à fait. Elle pouvait faire, a priori, très finement la différence entre la chair, le muscle, l'os. Mais elle mange aussi l'os parce que l'os, c'est une source de nourriture aussi, notamment la moelle à l'intérieur, la moelle osseuse à l'intérieur de l'os, qui est quelque chose de très calorique. Et ça, elle pouvait savoir ce qu'elle mangeait. Oui, oui, tout à fait.
C'est une question bête, mais ça mange quoi en termes de volume? Si jamais l'animal fait 5 tonnes, est-ce qu'on sait à peu près combien de dinosaures il devait tuer dans la journée ou combien de kilos, de tonnes il devait avaler dans la journée?
Ça mange plusieurs milliers de kilos de nourriture par jour. Donc effectivement, ces proies, c'était d'autres dinosaures. Pas forcément beaucoup plus petits, parce que la proie favorite, c'est l'Edmontosaurus. Donc c'est quelque chose d'assez gros, hein, une dizaine de mètres de long pour un poids de 4 tonnes. Ou alors le Triceratops, cette espèce de dinosaure avec une grosse corne. Là. Lui aussi, il est aux alentours de 10 tonnes, avec une taille autour de 8 mètres. Donc, de la grosse proie. Et c'est pour ça qu'en fait, sa vitesse qu'on dit lente, elle n'est pas si lente que ça, parce qu'elle courait plus vite que ces deux dinosaures-là, par exemple.
Ouais.
Largement de quoi les attraper. Hein.
Et ce que j'ai bien aimé aussi dans ton dossier, c'est qu'on a une image, en gros, très Jurassic Park, quoi, du T-Rex. Le roi des dinos, c'est le boss, il chasse tout seul dans son coin. Alors qu'en vérité, c'est plutôt le contraire.
Alors, les dinosaures adultes, probablement qu'ils devaient chasser seuls, au moins une partie de leur temps. Mais on suppose aussi qu'ils vivaient dans des petits troupeaux avec des juvéniles et que ces juvéniles qui étaient beaucoup plus rapides et beaucoup plus petits pouvaient permettre de rabattre des proies vers la grosse gueule de l'adulte pour que lui il fournisse pas trop d'efforts, juste un petit coup de tête pour croquer ceux qui lui passent juste à côté et ainsi se nourrir sans trop se fatiguer.
Ouais, parce que c'est ça finalement la façon de chasser du T-Rex, et elle est relativement peu mobile quoi. Il attend dans un bon spot que il y ait une proie qui lui plaise bien qui se rapproche.
On pense que c'est plutôt ça, parce que même s'il courait assez vite, il n'y avait pas forcément l'énergie nécessaire pour courir très longtemps. Donc, il est bien plus probable qu'il se soit tenu à l'affût dans un bon spot, comme tu dis, à attendre que des proies rabattues par les autres petits, là, qui pouvaient un peu plus dépenser d'énergie, les ramènent à lui.
Et qu'est-ce qui peut amener aujourd'hui ? Alors, c'est vrai qu'on étudie le tyrannosaure, j'imagine, depuis un sacré moment. Quels sont les éléments qui permettent de croire que le dinosaure, enfin le tyrannosaure, ne vivait pas seul, mais en meute, en petit groupe ?
Alors, on a trouvé des lits de fossiles où il y avait plusieurs dinosaures enterrés en même temps. Donc, s'ils sont morts en même temps, on suppose vraisemblablement qu'ils ont aussi vécu à peu près au même endroit. Alors, ces dinosaures-là, c'est pas tout à fait des T-Rex, mais c'est des dinosaures très apparentés aux T-Rex, où on se dit que, vu la proximité entre les espèces, ils pouvaient forcément, au moins de temps en temps, aussi avoir ses fonctions sociales, ses rapports sociaux de vie et communautaire. Alors, on ne parle pas de gros troupeaux comme des troupeaux de moutons. Hein. C'est peut-être deux ou trois adultes avec une dizaine de juvéniles, mais pas les milliers de caribous qui migrent ensemble.
J'imagine. Je vais faire une petite dégression parce que c'est un point qui, je pense, est assez intéressant. Trix a relancé, en gros, l'imaginaire du côté du visiteur, mais du côté des chercheurs, sa découverte a permis de donner naissance, on va dire, à de nouvelles recherches et à de nouvelles études. Et est-ce qu'on sait aujourd'hui combien de tyrannosaures ont potentiellement foulé la Terre avant nous ?
C'est une question qui est extrêmement difficile, mais dernièrement, il y a une étude qui est sortie qui a tenté de faire une estimation du nombre de T-Rex qui ont vécu au total sur la Terre. Donc, on parle d'un règne d'environ 2,5 millions d'années. Les premiers sont apparus un peu avant 68 millions d'années. Ils sont morts en même temps que tous les autres dinosaures il y a 66 millions d'années. L'estimation, elle se base sur le périmètre de chasse d'un adulte, sur l'espace qu'ils avaient à disposition sur cette moitié ouest de l'Amérique du Nord. Mais elle est quand même très large, hein, puisqu'on parle de entre 2,5 milliards et 42 milliards de T-Rex au total qui auraient vécu sur Terre.
Oui, c'est une grosse fourchette.
C'est une grosse fourchette. On peut dire qu'il y en a eu beaucoup, parce qu'on a trouvé quand même un nombre assez important de fossiles, une centaine. Ça semble très peu quand on parle comme ça, mais pour une espèce de dinosaure, c'est quand même assez important, en sachant que d'habitude, même pour certains dinosaures, on a juste un petit bout d'os pour pouvoir qualifier une espèce. Là, on a quand même 100 fossiles, quelques-uns qui sont très bien conservés, donc on suppose quand même qu'ils étaient relativement nombreux et dominants.
Oui.
Peux-je savoir que c'est leur mère ?
Mais il te faut quoi ? Un livret de famille ? C'est une dinosaure !
Tu peux pas me demander ça ! J'ai sué sang et eau pour les élever !
Depuis ce matin !
Fin de la digression, on va revenir sur une population que tu as décrite tout à l'heure sous le terme de juvénile. C'est vrai que ce soit dans les films ou les documentaires, les dinosaures sont souvent représentés à deux stades différents. C'est soit dans la fleur de l'âge, soit bébé, parce que justement, ils sont vulnérables et tout mignons. Là, en l'occurrence, les chercheurs ont choisi de s'intéresser en quelque sorte aux ados. Et les tyrannosaures juvéniles, dans ton dossier, tu dis que c'est ceux qui ont à peu près jusqu'à 17 ans, donc c'est à peu près la moitié de leur espérance de vie. Ils sont beaucoup, beaucoup plus petits que le T-Rex adulte, qui atteint sa taille maximale finalement quasiment à la fin de sa vie, hein, en arrivant à la trentaine. Comment expliquer une croissance finalement très lente ?
Alors, elle est lente, mais finalement pas si lente que ça, parce que on n'a jamais retrouvé d'œuf de Tyrannosaure Rex, mais on suppose qu'un œuf devait faire à peu près la taille d'un ballon de basket.
Ouais.
À 15 ans, le T-Rex, il mesure déjà 4 à 6 mètres de long, et il fait une tonne. Donc même si la croissance elle était lente, c'est quand même quelques centaines de kilos engrangés chaque année. Par contre, elle était régulière. Et aux alentours de 15 ans, on assiste à une formidable poussée de croissance où là, en 4-5 ans, il atteint sa taille adulte. On ne s'est pas intéressé à ces dinosaures-là pendant très longtemps, parce qu'en fait, ils étaient tellement plus petits que les adultes qu'on pensait que c'était une autre espèce, en fait. On avait les fossiles, mais on supposait que c'était une forme pygmée, une forme naine de T-Rex. Mais on n'imaginait pas que ça pouvait être des adolescents avant leur grosse poussée de croissance. Là, très dernièrement, on a pu avoir accès à des os qui ont pu être coupés au sein de chaque os. En fait, à chaque année, les animaux arrêtent de grandir, généralement en hiver, et ils reprennent leur croissance au printemps. Et cet arrêt, ça fait un petit dépôt sur l'os, un peu comme les cernes d'un arbre. et on peut compter ces anneaux de croissance, c'est comme ça que ça s'appelle, et ainsi calculer l'âge. C'est comme ça qu'on a pu voir que ces mini T-Rex, ils avaient entre 15 et 17 ans, avec des anneaux de croissance assez réguliers. Donc, on suppose que donc la croissance était régulière. Et juste après cette période, il y a un énorme écart avec l'anneau suivant. Donc, on devine là la poussée de croissance qui fait aboutir au monstre adulte jusqu'à plus de 8 tonnes pour le plus gros, là, Scotty.
Et avant d'être les mastodontes qu'on imagine, c'est ça, hein, 12 ou 13 mètres de long, plusieurs tonnes, est-ce que ces juvéniles sont eux-mêmes, en gros, des rois, ou est-ce qu'ils sont menacés par d'autres espèces environnantes, voire par d'autres tyrannosaures?
Menacés par d'autres tyrannosaures, c'est possible parce qu'on a des squelettes avec des traces de morsures infligées par d'autres T-Rex. Donc, ils devaient peut-être se battre. On ne sait pas trop pour quelle raison. Peut-être pour se disputer un peu de nourriture ou alors durant les premières parades sexuelles. Par contre, non, c'était toujours les rois du coin. Hein. Ça, c'est certain. Parce que en fait, dans les environnements où il y avait les T-Rex juvéniles, il n'y a plus aucun autre prédateur de leur taille. Donc, on suppose qu'ils les ont tous évincés et qu'ils ont mis la main sur le territoire, mis la main sur les ressources et tous les autres, ils les ont virés.
Ouais, ils ont fait le ménage.
Ils ont fait le ménage. Ah ouais, ouais, ouais. Ils sont plus petits, mais ils sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus agiles. Donc, c'est toujours des machines à tuer. Un peu plus petites, avec une morsure un peu moins puissante, mais même face à un petit T-Rex juvénile, on ne ferait pas le poids. Ni personne d'autre sur Terre, actuellement.
Et leur physionomie est quand même un peu différente, je crois. Les bras sont quoi? Un poil plus long, c'est ça que...
En fait, les bras, ils ont la même taille que les adultes, sauf que comme eux, ils sont plus petits, ça paraît un peu plus équilibré, et j'allais presque dire un peu moins ridicule que ce qu'on voit chez les adultes. On suppose que, d'ailleurs, là, ils leur servaient peut-être dans leur course très rapide. Possiblement, les bras pouvaient aussi toucher la terre et ils pouvaient peut-être se déplacer presque à quatre pattes par moment.
Ouais, parce que c'est ça, hein, les bras et les deux doigts du T-Rex, ça fait partie des grandes énigmes, on va dire, des caractéristiques un peu inutiles.
Ouais,
quoi.
C'est quelque chose qu'on n'explique pas. Alors, il y a plusieurs hypothèses. Certains disent que même à l'âge adulte, ils pouvaient quand même servir peut-être à maintenir les proies. D'autres disent que finalement, le T-Rex, c'est une forme intermédiaire vers quelque chose qui n'a pas pu apparaître parce que tous les dinosaures ont disparu. Mais s'il y avait eu des générations suivantes et des évolutions, peut-être qu'on aurait abouti à un animal carrément sans ses deux bras. On ne saura jamais, malheureusement.
Non, mais attends, on le saura peut-être. Hein. Si jamais on découvre une T-Rex 2 ou un autre fossile tout aussi évolué, peut-être qu'on obtiendra des réponses comme ça. Ferme pas la porte. On fera un autre épisode de Sixième Science,
volontiers.
C'est ça qu'il faut dire. On va justement clore celui-ci avec une note un peu triste, parce que moi, quand j'ai terminé ton dossier, j'étais un peu triste de me dire que le tyrannosaure, avec une espérance de vie d'une trentaine d'années et une croissance qui s'étale, alors même avec des phases plus ou moins rapides, finalement, il n'atteint et il ne jouit de son plein potentiel que quelques années. Je trouve que ça va totalement à rebours de l'image de roi du règne animal à l'époque du Crétacé.
C'est vrai que il passe la majeure partie de sa vie dans une forme qui n'est pas sa forme adulte définitive. Pourquoi ? Peut-être que sa forme adulte est vraiment trop demandeuse de nourriture, trop demandeuse d'énergie, et que maintenir un niveau de consommation suffisant sur une très longue période, c'était peut-être trop difficile, hein, malgré les ressources qu'il y avait à l'époque. C'est une des hypothèses. Après, il y a beaucoup d'animaux sur Terre qui vivent une grande partie de leur vie à l'état... Alors, c'est pas pareil, hein, c'est des insectes. Par exemple, les larves d'insectes vivent bien plus longtemps à l'état larvaire qu'à l'état adulte. Donc, c'est pas quelque chose qui est inédit dans la vie.
Ouais.
Mais c'est vrai que pour les T-Rex, c'est quelque chose qu'on a bien pu identifier. Les mêmes recherches n'ont pas été menées avec autant de finesse chez d'autres espèces de dinosaures, si bien qu'on ne sait pas si c'est pas le cas sur plusieurs autres espèces. Mais elles sont en train d'être faites, donc on aura certainement l'occasion d'y revenir.
Merci Joël, je suis d'accord. Et finalement, c'est ça, hein, c'est ce que je me disais, le règne du tyran des dinosaures aura été de courte durée, d'abord par cette espérance de vie pas si royale que ça au final, mais aussi parce que, et ça tu l'as dit en intro, le Tyrannosaurus n'aura foulé la Terre que pendant 2,5 millions d'années, alors que l'ère des dinosaures se serait étalée sur quoi, 170 ou 175 millions d'années.
Ouais, voilà, c'est ça, tout à fait à peu près. Ils se sont pris un gros astéroïde sur la tête, ce qui a mis un terme définitif à leur règne. On ne sait pas s'ils avaient eu plus de temps, vers quoi ils auraient évolué, combien de temps ils auraient pu régner comme ça sur Terre. Mais bon, s'il n'y avait pas eu cet astéroïde, les mammifères n'auraient pas pu exploser et on aurait très peu de chance d'être aujourd'hui là à parler de ces magnifiques animaux.
Exactement, mais c'est ça, l'humilité, hein, c'est un peu le message de cette conclusion, parce que nous qui lui succédons sur le trône, alors ne faisons pas de spécisme, mais nous sommes 10 fois plus jeunes que l'ère, on va dire, T-Rex. C'est un vœu pieux, mais je nous souhaite plus de réussite et la même postérité dans les musées du futur. À dans 2 semaines, et n'oubliez pas, météorite ou pas, on envoie de la science dans tous les sens.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.